pour investir, la boîte à outils.
Allez, 11h30, on parle de votre patrimoine jusqu'à midi, toujours sur BFM Business, dans Tout pour investir, à la télé, à la radio, sur Internet, nos replays, nos podcasts hein, sur bfmbusiness.fr, évidemment. Alors, on va parler patrimoine aujourd'hui avec François-Xavier Seurre qui est avec nous. Bonjour François-Xavier.
Bonjour Guillaume.
Gestionnaire de patrimoine chez Terrae Patrimoine. Alors, quand on a du patrimoine, quand on a du patrimoine, il y a dans l'absolu des centaines et des centaines de questions à se poser, et des centaines, et encore des centaines qu'on oublie. Vous êtes venu ce matin, alors pas pour nous faire une liste de centaines de questions à se poser, mais vous en avez retenu quatre.
Quatre, exactement.
Quatre fondamentales, et vous dites, ces questions-là, il faut absolument se les poser au moins une fois dans sa vie pour pas faire d'erreurs majeures.
C'est alors, ça. Quatre fondamentaux dans quatre...
T'as eu un boulot dans choisir quatre parmi...
Oui, c'est compliqué. C'est pour ça, celle-là, on pourra la refaire comme chronique, assez régulièrement. Parce que là, j'ai essayé de prendre un sujet juridique, un sujet financier, un sujet immobilier. Comme ça, on va pouvoir aborder. Puis surtout, chaque personne va pouvoir essayer de se reconnaître un peu. Parce qu'en fait, on a tous des problématiques un peu différentes. On va tous se poser des questions différentes. Mais l'essentiel, c'est un moment de se les poser. De se mettre, passez-moi l'expression, le coup de pied aux fesses nécessaire pour se poser sur ces sujets-là.
Quel que soit l'âge ?
Quel que soit l'âge. Parce qu'il y a vraiment, là, dans ce qu'on va aborder, il y a vraiment des choses qui vont se poser quasiment de 18 à 99 ans, véritablement.
Donc, il y a une juridique, une financière, une immobilière et la quatrième, je ne sais pas.
C'est du juridico-financier.
C'est du juridico-financier. Voilà, on a fait un mix pour le coup. OK, on a quelques minutes, donc on va le temps de les détailler une par une. Allez, la première.
Premier fondamental. Posons-nous la question de la protection. Parce qu'on se pose souvent la question de la protection au sein de la famille. Et quand on se pose la question de la protection et du juridique au sein de la famille, on pense à des actes notariés et on pense souvent au testament. On dit, c'est bon, j'ai un testament.
Oui.
C'est bon, j'ai fait une donation au dernier vivant. Ça permet de protéger le conjoint, de donner plus de pouvoir au conjoint en cas de décès. C'est une bonne idée. Et on oublie souvent de se protéger contre les questions de dépendance. De dépendance, donc, se retrouver sous tutelle ou sous curatelle, pour être clair. Et on a tendance souvent à y penser aussi sous un aspect produit, à dire oui, mais j'ai souscrit une assurance, je vais avoir une rente, je vais avoir un capital. Il y a un outil qui est un outil majeur maintenant et qui doit prendre une place majeure, c'est ce qu'on appelle le mandat de protection future. Le mandat de protection future, c'est un acte par lequel on va confier à quelqu'un de confiance...
De confiance.
C'est important qu'on désigne... Et on va dire, si jamais un jour je suis dans l'incapacité pour des raisons physiques ou psychologiques de gérer mon patrimoine, et ça ne concerne que le patrimoine, hein, pas des questions de santé, eh bien, je te donne tel et tel pouvoir. Soit on donne des pouvoirs limités, et on dit, je te donne ça comme pouvoir, pour le reste, tu iras voir le juge, ou alors on donne des pouvoirs larges, et à ce moment-là, on a des pouvoirs assez larges, et à partir de certains actes, on est obligé d'aller voir le juge. L'objectif, c'est quoi ? C'est d'éviter de se retrouver dans le couloir de ce qu'on appelait avant le juge des tutelles, qui maintenant s'appelle le juge des contentieux de la protection.
Oui.
Depuis quelques années, il a plus de pouvoirs, des pouvoirs élargis. Parce qu'il faut voir que quand vous avez un majeur, peut-être que vous l'avez connu, ceux qui nous écoutent, ou vous, Guillaume, d'une façon personnelle, mais quand on est confronté à quelqu'un qui se retrouve sous curatelle, sous tutelle, ou qui perd doucement la tête, en fait, on se retrouve avec un patrimoine qui est totalement bloqué, et on se retrouve avec des décisions à prendre, parfois des arbitrages à faire. Vous voyez, vous parlez d'actualités aujourd'hui qui sont extrêmement chaudes sur le plan, sur le plan économique, sur le plan financier. Il y a des choses à faire, il y a des arbitrages à faire, des décisions à prendre. Quelqu'un qui aujourd'hui ne peut plus parce que, il a un souci psychologique, il a un souci physique majeur qui l'empêche de gérer son patrimoine, il faut qu'il y ait une solution qui existe. Donc, c'est le mandat de protection future, ça se rédige devant un notaire. Vous allez donc désigner quelqu'un, à défaut, on peut dire quelqu'un d'autre. Vous voyez, par exemple, vous allez désigner mon conjoint, à défaut, un de mes enfants, à défaut, ça peut être un ami. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça.
Oui, c'est pas forcément au sein de la famille.
C'est pas forcément au sein de la famille, exactement, ça peut être relativement large. Et par exemple, ça va permettre de dire, demain, je dois intégrer en EHPAD, pour payer cet EHPAD, j'ai besoin qu'on loue la résidence principale, et bien, je vais faire des travaux, je vais l'adapter, et on va passer ainsi.
Voilà, donc se protéger d'une tutelle ou d'une curatelle, le mandat de protection future.
Et c'est pas pour les vieux.
Non, mais j'entends bien.
J'ai pas 80 balais, j'ai déjà signé le mien, je tiens à le dire.
D'accord,
c'est important.
Très bien, on a, ça nous donne un bon repère. Deuxième, nous en resterons à faire 30-45 secondes sur chacun. Avoir un PEA, vous dites, c'est le dernier paradis fiscal des investisseurs.
C'est le dernier paradis fiscal des investisseurs. Vous avez du patrimoine, vous devez avoir un PEA, c'est léger.
Un paradis, c'est sans risque, normalement.
Un paradis, c'est avec une fiscalité limitée. J'ai bien dit paradis fiscal. Donc c'est cette idée-là. Le PEA, quand vous avez du patrimoine, vous devez avoir un PEA. Pourquoi ? Parce que c'est léger en frais, c'est léger en fiscalité à la sortie. On l'oublie, le PEA, ça permet aussi à des chefs d'entreprise d'investir dans leur propre société. Quand vous créez une société, par exemple, si vous avez envie de monter une boîte avec 5 copains, vous avez 20% de la boîte chacun, créez-la via votre PEA, achetez-la via votre PEA, parce que ça vous permettra à la sortie de pas vous poser des questions d'holding, de plus-value, de choses comme ça. C'est déjà optimisé, c'est dans le PEA. Tous ceux qui aujourd'hui sortent des PEL, là, il y a les PEL de plus de 15 ans qui sont en train de sortir, fait 15 ans que vous gagnez entre 1 et 2% par an. Si vous aviez eu un PEA, vous auriez largement fait une performance supérieure. Bien évidemment, le PEL, attention, je compare.
Sur les 15 prochaines années,
les marchés sont élevés, attention, les actions sont élevées, surtout aux États-Unis, et le PEL, c'est du garanti en capital, le PEA, ça l'est pas.
Avoir un PEA, dernier paradis fiscal, c'était le deuxième. Le troisième, c'est arbitrer sa résidence principale comme un actif financier.
Alors là-dessus, on pourrait en faire une chronique de 10 minutes. L'idée, c'est de se dire qu'on a l'INSEE qui, l'été dernier, avait sorti une étude qui disait qu'un quart des ménages français vivaient dans un logement trop grand. Et quand on dit trop grand, ça veut dire 5 pièces pour une personne seule ou en couple, ou 6 pièces pour un couple avec un enfant. Donc largement trop grand. L'idée est de dire que l'épargne des Français, pour beaucoup de Français, 90-95%, c'est la résidence principale. On met tout dedans. Et en fait, on n'a pas d'actifs financiers ou d'actifs immobiliers qui permettent de développer le patrimoine. On n'a que cet actif de jouissance.
Ça bloque. Oui.
Ça bloque. Ça bloque la capacité d'épargne, ça bloque la capacité d'investissement, ça bloque la capacité d'emprunt. Et l'idée est de se dire que quand on est seul, quand les enfants sont partis, que vous avez par exemple une maison qui vaut 800 000, en acheter une qui en vaut 500 000, quand vous placez 300 000 à 4% par an, ça vous fait 1 000 € par mois. Donc c'est cette idée de se dire, on cherche de l'argent, souvent l'argent il est dans votre résidence principale parce que là où vous vivez, pour un quart des Français, c'est trop grand par rapport à vos besoins.
Voilà pour le troisième. Et puis quatrième, pensez à la clause bénéficiaire démembrée. Alors,
en 40 secondes, ça va être chaud, mais on va essayer. L'idée,
c'est si c'est une minute, c'est bon.
C'est une minute, allez, j'ai le droit à une minute. L'idée, c'est de se dire qu'un contrat d'assurance vie, le plus important après la solidité de l'assureur, c'est la clause bénéficiaire. Parce que la clause bénéficiaire, c'est ce qui va permettre de définir sur le plan civil et fiscal qui reçoit quoi en cas de décès. La clause bénéficiaire, il faut la revoir au moins d'une façon annuelle. C'est important parce que vous pouvez changer de vie, vous pouvez changer, par exemple, d'époux, d'épouse. Ouais. Si jamais vous avez désigné cette personne par son nom et son prénom, si jamais vous décédez, c'est quand même cette personne qui va le recevoir. Donc, il faut le mettre à jour d'une façon régulière. Et on a tendance à oublier que désigner son conjoint, ça sert globalement à rien. Parce que le conjoint, il est exonéré par la loi. On n'a pas de droit de succession entre époux. Ça date de maintenant quasiment 20 ans. Donc, les clauses bénéficiaires, mon conjoint, ça ne sert à rien. Donc
on choisit un des enfants.
Il faut choisir soit les enfants directement, soit dire mon conjoint usufruitier, mes enfants du propriétaire. C'est ça la clause bénéficiaire démembrée. Parce qu'à ce moment-là, en cas de décès, le conjoint reçoit la somme en cash sur son compte bancaire et les enfants reçoivent uniquement ce qu'on appelle une créance de restitution sur le patrimoine du conjoint survivant. On va indexer cette clause, cette créance qui va grossir avec le temps et ça, c'est d'une efficacité redoutable sur le plan patrimonial. C'est ça qui est important en gestion de patrimoine. N'oubliez pas, quand on fait un contrat assurance vie, on le fait parce qu'on est dans un objectif de transmission.
Ouais.
La solidité de l'assureur, la clause bénéficiaire, puis la location.
Et bien voilà, les quatre questions fondamentales à vous poser une fois dans votre vie, et ce n'est pas une question d'âge.
Quatre des fondamentaux, on aurait pu en faire
40. Ah bon, on aurait pu en faire 150, oui.
Refais la même dans 15 jours.
Oui, on va faire 4 tous les jours à raison de quelques mois, on va y arriver. Quatre fondamentaux à se poser une fois dans sa vie, et ce n'est pas une question d'âge. Et ce n'est pas une question d'âge.
Tout à fait.
Merci beaucoup François-Xavier, merci de passer nous voir. François-Xavier Seur, gestionnaire de patrimoine chez Terrae Patrimoine. À très vite, avec plaisir. Il est 11h38 sur BFM Business.